Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gone sont à la Halle de Bourg. Vous vous demandez sans doute pourquoi faire et c'est où cet endroit. La Halle de Bourg est rue de Bourg et c'est un grand hangar, comme son nom l'indique, dans le 7e arrondissement. Elle est tout près d'une autre halle que vous connaissez évidemment beaucoup mieux, qui est plus grande et beaucoup plus connue, qui est bien sûr la halle Tony Garnier. Pourquoi venir ici nous perdre dans ce quartier de Gerland? Parce que c'est un quartier en pleine transformation et qui gagne à être connu, évidemment. Mais pas seulement. Vous vous en doutez, nous sommes invités par les organisateurs du festival Peinture Fraîche pour deux numéros de notre émission. Et on va en reparler, bien sûr, avec nos chroniqueurs et les organisateurs du festival. Nous sommes tout bonnement ravis de vous faire partager ce moment. Au programme, le street artiste Cartoine, qui est également organisateur de Peinture Fraîche et son directeur artistique. Il sera sur le plateau tout à l'heure pour parler des invités et de la programmation. Guillaume et ses deux invités feront résonner les mots et leur musique, notamment Slamouraï et son guitariste Michael Contrepas, qui ont slamé pour nous en live. Gaël évoquera pour nous la superbe exposition Picasso au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et nous terminerons avec nos Gédéons, des incontournables du moment. Et vous commencez à avoir l'habitude, mes chers auditeurs. Hello Guillaume, bonjour à tous les trois. Tu es venu avec Slamouraï et Michael Contrepas, son guitariste. Je te laisse avec tes invités et nous les faire découvrir surtout.
Alors c'est Michael Contrepas.
Voilà. Moi je voulais faire découvrir à nos auditeurs Slamouraï parce que moi-même je l'ai découvert il y a peu de temps, donc pour l'introduction de l'année dans la salle à tout bout de champ où tu es venu faire deux titres. Et j'ai trouvé ce moment assez suspendu parce que évidemment dans ton nom il y a slam, on s'attend donc forcément à du slam. Mais en fait c'est un slam un peu particulier puisqu'il y a un guitariste et qui rythme finalement les morceaux. Et c'est vraiment, vraiment une expérience différente. Alors comment ce projet est né? Ou est-ce qu'il est né avec Michael? Ou est-ce qu'il existait avant? Bien sûr, je suppose que oui, mais j'aimerais que tu m'en dises quelques mots.
Alors il est vrai que la volonté de mettre mes textes en musique existe depuis quelques années maintenant. J'ai eu l'occasion de collaborer avec d'autres musiciens que Michael avant de faire sa rencontre. La belle histoire avec Michael, c'est qu'on s'est rencontrés donc à tout bout de champ, là où on est accompagné cette année. Et du coup, on a décidé de s'essayer ensemble. Ça a fonctionné, on s'est jeté à l'eau. Et puis il y a tout juste 2 ans qu'on s'est rencontrés. Mmh. Et du coup, on a monté ce projet avec des textes qui existaient déjà, d'autres qu'on a écrits ensemble, que ce soit au niveau de la musique ou des paroles. Et du coup, ça donne ce que tu as pu entendre la dernière fois à tout bout de champ.
D'accord. Alors, j'ai vu sur Facebook, alors c'est très bizarre parce que là, je suis en train de te parler. Et en fait, je n'ai pas entendu le disque qui va sortir puisqu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas pas en streaming. Et donc, il va sortir en physique puisqu'il y a une jolie pochette que j'ai vue sur Facebook. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est un EP? Il y a combien de titres? Quelle est la thématique générale?
Ok, alors c'est en effet un EP de 5 titres qui sort en physique et qui sera disponible d'ici un petit mois donc en streaming. Cet EP s'appelle « Autant de doutes » et la thématique générale en fait est assez large puisqu'on va traiter des sujets aussi sérieux que la détention, aussi légers que la séduction entre un homme et une femme. Et,
c'est un petit peu lié ça d'ailleurs, non? Trouve pas? La détention et la séduction, non?
Selon Weinstein, ouais, c'est lié. Selon Weinstein, c'est en effet lié. Après, ma notion de séduction n'est quand même pas celle de Weinstein, donc j'espère ne pas finir en détention. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi des sujets un peu plus existentiels sur des ressentis, des émotions, des façons de percevoir un peu la vie.
D'accord. Et alors, puisque donc Michael fait partie de ton projet, comment vous travaillez ensemble? Comment donc les textes préexistent à la musique? Est-ce que c'est l'inverse? Comment ça fonctionne?
Disons que, en fait, Jérémy, il est slammer depuis vraiment longtemps. Donc, il a une base de textes qui est conséquente. Après, il y a tout un travail pour arriver à structurer, pour qu'on puisse, comment dire, avoir une structure musicale qui fonctionne avec le texte. Donc, il y a un travail qu'on fait ensemble, quoi, de, comment dire, de, un peu d'édition, si on peut dire. Quoi. Mmh. Après, moi, j'arrive avec des propositions musicales, des idées, puis finalement, on arrive à mettre tout ça ensemble. Quoi.
D'accord. Ouais. Et donc là, vous allez jouer un morceau tout à l'heure en acoustique. Est-ce que sur le disque, justement, c'est acoustique ou au contraire, il y a des instruments électriques, des claviers?
Alors, sur le disque, on a fait quelques arrangements. Donc c'est un disque qu'on a fait en home studio, si on peut dire, quoi. Mais en fait, moi, je joue plusieurs autres instruments, donc j'en ai profité pour faire un peu de, comment dire, d'élaborer un peu autour des structures qu'on a mis en place ensemble, quoi. Donc il y a une couleur un peu acoustique quand même, mais c'est quand même avec des arrangements un peu élaborés.
Puisqu'on est ici, donc, dans cette halle de Bourg, alors évidemment, souvent, on associe le slam, le hip-hop, au mouvement street art aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touche ou alors pas du tout?
Alors oui, ça me touche totalement, parce que j'ai découvert la musique avec le rap. Je m'appelle Slamouraï, c'est aussi une grosse référence à Shuriken, à IAM, d'où le Shuriken en forme de plume sur la pochette. Donc ça, c'est, voilà, on va dire, l'origine première du nom. Après, au niveau de cette musique, j'avoue que j'ai grandi avec ça. Et cette musique m'a permis, en fait, ensuite, de m'ouvrir à la soul music pour aller justement comprendre tous les instrus qu'on pouvait avoir, j'allais dire, à l'écoute et qui étaient utilisés par les rappeurs du moment. Et puis, je me suis ouvert aussi, parce que j'aimais le texte, à la chanson française. Et du coup, en gros, j'ai trouvé ça intéressant avec le slam, d'être une passerelle entre le rap, la chanson et les versions sans musique du slam qu'on peut retrouver dans les bars, dans les scènes ouvertes que je fréquente de temps en temps, pour ne pas dire même très souvent.
Très souvent, tu peux peut-être citer des lieux justement, des jours.
Oui, on a un collectif donc, qui s'appelle le Cercle des Poètes à la Rue, dont Ghislain N par exemple fait partie, et on anime des scènes donc dans différents lieux. On est une fois par mois le dimanche au Théâtre des Clochards Célestes, on est le dernier mercredi du mois à tout bout de champ pour une scène plus éclectique où là on va mélanger donc la musique et le slam. Donc ça peut être rap, ça peut être chanson française, voilà, on accueille tout le monde en fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on a une scène au Macanudo, donc en face de la piscine du Rhône, dans le 7e arrondissement, qui a lieu en général le mardi. Et là, il faut voir un petit peu, dans cette période un peu particulière, comment ça va se passer pour la reprise dans ce lieu-là. Voilà. Mais sinon, on est quand même assez actif, en effet, au niveau de ces scènes qui sont ouvertes à toutes et tous.
Et que dirais-tu justement à des gens pour les convaincre de monter sur scène?
Mais je ne sais pas si c'est une bonne façon de convaincre,
oui,
les gens.
D'accord.
Un texte dit égal un verre offert.
Tout à fait.
Je sais. Oui, en effet, c'est un petit peu... Mais en gros, ça résume totalement l'ambiance générale d'une soirée slam, c'est le partage. Quelqu'un vient nous partager un texte et on lui offre un verre derrière. Alors en effet, on en joue beaucoup sur le ton de la plaisanterie, mais l'idée, c'est vraiment de partager. Quand j'ai découvert le slam, donc au milieu des années 2000, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'était en fait la rencontre entre les différentes générations, entre les différents mouvements musicaux, entre différents mouvements socioculturels en fait. Ça m'a vraiment interpellé et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce qu'on a tendance tous à, j'allais dire, se recroqueviller dans son carcan entre les rappeurs, les punks par exemple, voilà, pour ne citer qu'eux, mais voilà, la liste est non exhaustive. Et du coup, ce que j'apprécie vraiment dans ce mouvement-là, qui est le slam, c'est ce partage-là. C'est de pouvoir discuter avec des personnes qui ont 70 ans, qui viennent régulièrement sur nos scènes. Et voilà, et on a des conversations qui dépassent le cadre artistique par la suite, et que je trouve vraiment intéressantes, parce que ça crée du lien social. Et c'est, j'allais dire, une forme politique, mais au sens grec du terme. de justement penser la vie, la société, tous ensemble, et je trouve ça vraiment chouette.
Ça va peut-être te surprendre, mais là, à t'écouter, ça me fait penser à un groupe qui n'existe plus, qui justement était un peu intergénérationnel, que j'ai vu beaucoup de fois en concert, qui s'appelle Fauve. Et Fauve, justement, plusieurs fois, je les ai vus en concert, et il y avait des gens, ben, on va dire, d'un certain âge ou d'un âge certain, et puis des gens très très jeunes. Et j'ai assisté à plusieurs concerts et à des conversations entre ces deux publics, entre guillemets, et c'était assez amusant parce qu'il y avait des gens plus âgés qui disaient « Mais voilà, mais qu'est-ce que tu comprends, toi, des paroles ?» Et une jeune fille de, je sais pas, 10, 12 ans, 13 ans qui disait mais je comprends ce que j'ai à comprendre. » Et voilà, quoi. Et c'est ça, le partage, et c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être pour revenir sur l'écriture, parce que justement, Chanteur de Fauve, il noircissait des pages et des pages et des pages et des pages pour arriver à un texte cohérent. Alors comment ça fonctionne dans le slam ?
Il y a des règles bien définies, en fait, dans une soirée slam. On a 3 minutes ou 5 selon les endroits. Chacun a ses petites règles, mais en général, c'est 3 minutes parce qu'il y a aussi des tournois nationaux, etc., où là, on est vraiment limité à 3 minutes. Et donc, du coup, à partir de là, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Ça peut durer un peu moins, ça peut durer un peu plus. Je pense que de noyer les gens dans un flot de textes n'est pas forcément une bonne idée. Mais pour en revenir à Fauve, qui est un groupe que j'ai vraiment apprécié, le côté musical, je pense, faisait que le tout était digeste. Si on entend quelqu'un pendant 6 minutes nous parler, je pense que ça peut être un peu, peut-être un peu à la limite ennuyant. Et je crois qu'il n'y a que Jean-Marc Le Billan qui arrive à vraiment capter les gens sur 6 minutes, à nous raconter des choses et à nous captiver vraiment de façon équivoque, ou en tout cas sans aucune contestation possible.
Oui, mais alors, est-ce que ce carcan de 3 minutes, toi, comment dire, induit ta façon d'écrire les textes ?
Alors oui et non, parce qu'en effet, il y a des textes qui vont être justement calibrés pour les soirées slam, et il y en a d'autres, en fait, que je vais me permettre d'écrire et qui ne seront peut-être pas forcément, j'allais dire, déclamés en soirée slam. Donc après, la contrainte, on se la met quand on a envie de se la mettre, en fait, et sinon, on reste assez libre, hein, de toute façon.
D'accord, ben merci bien. Et puis donc, l'EP sort.
Ben là, il est sorti, voilà.
Là, d'accord, ouais. on peut le trouver où ?
Alors, pour le moment, vous pouvez uniquement le trouver en message privé sur la page Slamourai sur Facebook, et je vous l'envoie avec plaisir. Et puis, on est en train de mettre en place, justement, le streaming pour pouvoir le télécharger rapidement sur toutes les plateformes disponibles.
D'accord, ben merci, puis on va t'écouter dans deux titres, tout de suite. Merci à toi.
Albert Einstein a dit « Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Comme un poison nommé Vandame, je reste insaisissable. J'aime la poésie, cette grande dame, d'un amour impérissable. J'écris caché à l'ombre de mes stores. Pour beaucoup, je suis synonyme de mystère. J'aimerais changer d'hémisphère comme Paul-Émile Victor. J'ai 1000 ennemis, mais je n'ai pas les 1000 victoires. Il est impossible de m'analyser comme le sourire de Mona Lisa. Je suis un paradoxe comme le concept esthétique chez les Bogdanov. Un savant mélange entre poésie et blague de beauf. Je suis un poison clone. Quand la reproduction est sociale et la réussite essentielle, le dilemme est de taille et la notice n'est pas détaillée. Vivre est un feu de paille et j'ai l'impression de vivre empaillé. Tout me brûle de l'intérieur et tout le reste est littéraire. Entre les rêves rangés dans les tiroirs et la passion avortée par la terreur, je voulais les lauriers mais j'ai eu des orties. Je suis comme un soldat de plomb rêvant de déserter. J'ai perdu mon temps à vouloir gagner mes galons, chasser le naturel, je reviens mégalo. Je suis un poison rouge, entouré de requins, je suis un savant fou, jamais privé d'eureka, chercheur de rimes improbables, j'ai de quoi rendre la SACEM insolvable. Je suis là où on ne m'attend pas, le slam reste une onomatopée, il faut que ça claque comme disait Tonton, et si vos cœurs font boum, ce sont des attentats. Un rhétoriste de plus, recherché par toutes les polices d'écriture, tirant à l'aveugle sur une plage d'écoute sans avoir de critères. Je viens plaider sans avocat, tout ce que je dirais pourra exploser contre toi. Heureux comme un poison dans l'eau, quand ma langue se délie, les faits sans délai,
Quelques gouttes suffisent, c'est la puissance de ces phases. Je suis l'empoisonneur des lilas. Je fais des trous dans les cerveaux délicats. L'oreille est le chemin du cœur, disait Voltaire, et j'aime l'emprunter avec désinvolture. Il aurait fallu conjuguer le verbe aimer à bon escient pour qu'à la passion vous vous abonnassiez et ainsi se sentir vivant, vibrant, serrant ces mots dans vos bras. Récolteront ceux qui sèment sans redouter la moisson. Quand l'intention est saine, inutile de noyer le poisson.
Merci.
L'horizon a sombri, la raison a sombré, elle est partie sans bruit. La folie a son bras, nos pensées s'enfuient dans l'impasse sans fin. Les patients sont fous, la chance est passée sans foi. On perd son sang-froid, descend aux enfers sans frein. L'idéal est souffrant et le sens est souffré, essoufflé sur le flanc. Le futur assez flou, au fond on s'en fout, enfin on s'y fait. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise, vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. L'espoir est si frêle, même quand nos mains se frôlent. La vie, un jeu drôle, on en perd le contrôle. Mais c'est dressé contre elle, une armée de rebelles au milieu de robots, les désirs dérobés. Quand nos cœurs recèlent un désert de rubis, pénurie d'érudits, les cerveaux dénutris, asservis, démunis, on survit dominé et nos chances diminuent face au mal dominant. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. La mort me court après, mais je réussis à fuir. Je suis marqué par la vie comme un coup de ceinture en cuir. Autant de douleur que de couleur dans une peinture inca. L'espoir, un douleur en colère, de quoi péter un câble. Diagnostiqué instable, agnostiqué austère, chaotique. Quelle histoire, hostile au Nasdaq et fidèle au stylo. Je rêve que les traders nous parlent plus de philo. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. Trop dur de voir nos vies défiler sans un grain de folie. Vos murs dévorent nos vœux défiés dans un coin démoli. Réveille nos peurs d'enfants cachés sous un coin de nos lits, même en cas de non-lieu. On pousse un cri coupable, la dignité est souvent passée sous la table. On ne fait plus la différence entre l'info et la fable. À l'heure où l'on enferme tous les lanceurs d'alerte, les scandales se répètent et prennent l'ampleur d'Alep. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. La vie nous épuise quand l'amour nous méprise. Vivre ou mourir, mais les deux nous détruisent. Les deux nous détruisent. Les deux nous détruisent. Les deux nous détruisent. Les deux nous détruisent.
Yes.
On se retrouve sur le plateau avec Cartoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique de ce festival dédié au street art. Peinture fraîche aura finalement bien lieu du 2 au 25 octobre, avec des mesures sanitaires strictes et une jauge réduite, on va en parler. Après le succès de la première édition qui a attiré pratiquement 38 000 spectateurs, festivaliers on peut dire, sur 10 jours, on passe à 3 semaines. Une belle marque de confiance et un confort pour envisager sereinement l'accès du public. Comment avez-vous pensé l'accès du lieu, Cartoine ? Conseillez-vous de passer par une réservation ? Ça, on va commencer par évacuer ce type de questions et après on passe à la programmation.
Alors merci
artistique.
Beaucoup de commencer par ça parce qu'effectivement on n'a pas conçu le, L'expo à la base avec le Covid, puisqu'on travaillait dessus depuis mai dernier, la fin du dernier festival. Et cette année, on a dû vraiment repenser la visite avec des sens de circulation et puis toutes les mesures que nous conseille l'arrêté préfectoral. Et puis, avant que ce soit conseillé par l'arrêté préfectoral, ça nous tient à cœur de la sécurité de nos festivaliers, enfin des gens qui viennent nous rendre visite. Donc, effectivement, on a dû mettre en place des créneaux horaires. On est parti du principe qu'en 2 heures, c'est assez confortable pour voir l'ensemble du festival. Donc, on a fait des créneaux horaires pour que chacun profite pleinement de l'expérience. 10h midi, midi 14h, 14h, 16h. Et je conseille fortement les gens de prendre en ligne.
Ouais, c'est effectivement nécessaire. Je pense que ça permet d'avoir un petit créneau, de ne pas attendre trop et de rentrer tranquillement, de faire sa visite. Vous avez une jauge à 700, hein, c'est ce que
exactement.
Vous me disiez.
L'année dernière, Antoine. On était à 900.
Ouais.
Et pour des questions sanitaires, on est passé à 700. On est obligé d'avoir 4 mètres carrés. Enfin, c'est nous qui nous sommes imposés d'avoir 4 mètres carrés par personne. Donc, on tombe à 700 avec l'intérieur plus extérieur.
Alors, oui, une jauge réduite, mais en même temps, 3 semaines. 3 semaines pour travailler. On reparlera la semaine prochaine dans notre émission avec Emmanuel qui s'occupe de la médiation, etc., de toutes les avancées, finalement, qu'on va pouvoir faire en 3 semaines. Parce que finalement, 10 jours, c'est assez court hein, pour la première édition.
Bah alors, c'est ce que nous ont dit les gens. Alors, je ne vous cache pas qu'au bout de 10 jours, moi, j'étais sur les genoux.
Oui, forcément.
Ce qui fait que cette année, quand même, on ouvre du mercredi au dimanche,
oui.
Ce qui nous permet de nous reposer
bien sûr.
Et de nettoyer le site dans de bonnes conditions les lundis et mardis. Finalement, c'est une bonne chose aussi, ces conditions sanitaires, ce protocole. Parce que l'année dernière, on s'attendait à 15 000 personnes, on en a eu 38 000. Et forcément, ça a créé des embouteillages à l'intérieur et à l'extérieur. Et on voulait de toute façon repenser le site pour que les gens ne soient pas justement frustrés par ces attentes. Donc les créneaux horaires participent à ça aussi, au fait qu'il n'y aura normalement pas de file d'attente.
Vous avez repensé tout le circuit. On commence effectivement à découvrir les artistes qui sont présents ici, dont on va parler. Il y a un village de containers qui est installé au centre de la halle avec ce qu'on peut dire les galeries, c'est-à-dire les œuvres à vendre. Il y a bien une distinction que l'on peut faire aujourd'hui avec cette idée que les artistes ont besoin aussi de gagner leur vie, donc des œuvres qui sont sur mur et des œuvres qui sont plastiques que l'on peut acheter, des photographies par exemple, ou aussi des sérigraphies, etc. Faites bien la distinction entre ces deux éléments qui sont importants à distinguer.
Alors exactement, par philosophie et par nécessité, c'est-à-dire qu'on fait du street art, de l'art urbain, donc c'est des artistes qui interviennent dans l'espace public en général, sur des murs. Donc on voulait, quand on a cherché pendant 2 ans quand même un lieu pour faire un festival, on cherchait un lieu qui soit atypique, qui soit industriel, qui ressemble à un terrain, ce type de terrain dans lequel les graffeurs et les artistes interviennent pour faire des fresques. Mmh. Et l'Halle de Bourg était, quand on est arrivé, on est tombé amoureux tout de suite. Mais ce qui m'intéressait en fait dans l'exposition, c'était... effectivement, comme vous l'avez dit, il faut bien que les artistes vivent et on vit à travers la vente des œuvres. C'est comme je dis souvent, ça finance la guerre ou plutôt ça finance le terrain de jeu.
Ouais.
Parce que moi, je préfère parler de terrain de jeu. Je n'aime pas l'état d'esprit de faire la guerre. Mais l'idée, c'était de mettre en parallèle, en tout cas, des artistes, leur milieu naturel, donc la création sur mur, et mettre en parallèle les œuvres d'atelier. Parce que on se rend compte qu'il y a des artistes qui interviennent de la même façon sur support amovible, sur toile, que sur le mur. Mais ce n'est pas la majorité. C'est la majorité des artistes changent complètement leur approche. Et on a appréhension de l'œuvre d'atelier, du support mobile, complètement différente du mur. Et c'est de la pédagogie, en fait. J'avais envie de montrer déjà
cette différence.
Univers, les artistes, leurs univers, casser un peu l'image d'Épinal, du graffeur avec son spray, même s'il y en a. Hein, je veux pas avoir de problème avec les mecs qui ont un spray entre les mains. Non, mais ce que je veux dire, déjà montrer que même les gens qui ont un spray dans une main ont des univers complètement différents. Et puis montrer, voilà, faire ce parallèle entre travail dans l'espace public de Mur et travail d'atelier.
Ce qui est intéressant cette année aussi, c'est qu'il y a une super nouveauté, c'est-à-dire les œuvres augmentées. Vous nous bluffez avec des designers qui réinterviennent justement sur les œuvres. Donc avec une application, on télécharge une application, on fixe l'œuvre et l'œuvre se met en mouvement. C'est absolument ahurissant et c'est très intéressant en fait pour les artistes de montrer finalement une autre dimension de leur travail.
Exactement. En fait, moi aussi, en tant qu'artiste, j'ai développé, je fais des recherches autour de ce que peut apporter la technologie avec l'art et l'art urbain et l'art dans l'espace public. Sauf que je suis une quiche, moi personnellement, en technique. Donc, j'ai dû m'associer, c'est très bien, parce que c'est avec, par exemple, Mathieu Tercieux, avec qui j'ai développé l'atelier qu'on présente ici, le Light Spray. Ça m'a permis aussi d'avoir un point de vue différent, de discuter, avec d'échanger, peut-être d'aller plus loin que ce que j'aurais pu faire seul. Et voilà, en travaillant dans ce domaine-là, je me suis aperçu aussi qu'il y avait d'autres artistes qui étaient intervenus, qui appréhendaient les nouvelles technologies, et toute une frange d'artistes que moi-même je ne connaissais pas, même les graffeurs, les street artistes ne connaissent pas. Donc le public non plus. Et c'était une vraie envie de montrer cette frange de la création qui est en train d'émerger. Je fais souvent le parallèle. J'avais une prof d'histoire de l'art incroyable et qui a changé ma perception. J'ai fait 8 ans d'histoire de l'art, qui a changé ma perception des œuvres d'art, qui m'a toujours dit l'art a toujours évolué en fonction des techniques et pas le contraire. Le spray,
ce qui est vrai,
est un détournement de technique.
Oui.
En fait, ce n'était pas fait pour ça à la base. Les artistes se sont appropriés et en ont fait autre chose. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est une technique. Les artistes se les approprient et en font complètement autre chose. J'avais envie de montrer ça. Et c'est vrai que quand je l'ai présenté aux artistes, au début, ils étaient un peu perdus et dubitatifs. Et en fait, ils ont tout de suite compris que ça pouvait amener... Avec la peinture, on dit beaucoup de choses, mais on aimerait en dire plus parfois. Tout ce que la technologie peut permettre de dire en plus... De l'œuvre. Donc ils étaient. D'ailleurs, je suis très content parce que c'est un peu mon principe. Quand on fait des associations d'artistes et qu'ensuite, suite au festival, ils continuent des projets ensemble, c'est une victoire.
Ouais, c'est,
c'est déjà le cas.
Un croisement.
Alors qu'on
ne
vient
ça.
Pas d'ouvrir.
Ouais. Il y a combien d'artistes présentés ici dans le festival?
Alors, des artistes sur mur, une cinquantaine, mais on en présente beaucoup plus. Des artistes qui photographes, on a une grande bâche qui a été imprimée de 6 mètres. Par 2,50, donc la taille d'un conteneur, qui est en réalité augmentée. Et c'est l'artiste d'un photographe qui s'appelle Martial, un artiste local. Il y a des installations, on est à côté de conteneur. On a un artiste que j'aime beaucoup, c'est un de mes chouchous cette année, qui s'appelle Green Vegetal Works, et qui fait des installations de... Par exemple, il a fait un pangolin en carton. C'est que du recyclage, c'est que des matériaux de recyclage. Même sa colle, il la fabrique lui-même, c'est tout... écolo, et il l'a fait bien avant, il n'est pas opportuniste, ça fait des années qu'il travaille là-dessus, il n'a pas attendu l'élection de la nouvelle mairie pour travailler là-dessus. C'est un artiste engagé, quasi extrémiste, mais dans le bon sens du terme pour le coup, et qui nous a fait une grosse installation en détournant le logo de Only Lyon, et lui il a fait un Only One Earth avec un ours polaire. Voilà, il y a des artistes engagés qui font des installations. On a aussi un artiste qui me tient à cœur, c'est Spider Tag, l'artiste argentin qui fait des installations en néon. Alors il est complètement barré, lui, j'adore, parce que là il s'est un peu calmé, il va plus d'ailleurs même dans ses représentations vers l'abstraction, mais à une époque il avait trouvé des petites batteries auto-alimentées pas très chères de solaire, et il allait faire des graffitis à base de néon dans les rues. Faut avoir les idées larges.
Oui, effectivement.
Ouais. Il me bluffe.
On voit, il y a une très belle installation qui est ici présente à la Halle de Bourg. J'invite nos auditeurs à venir nous retrouver, on va dire, à partir de ce week-end et pendant 3 semaines jusqu'au 25 octobre. Il y a le temps, on va pouvoir venir justement découvrir tout ça. Il y a même une petite période pendant les vacances de Toussaint, donc c'est encore mieux.
Hein,
c'est le bonus, notamment pour accueillir le jeune public. public, les parents, etc.
Et on a fait toute une scénographie avec des canapés, donc on sera confortablement assis si on le souhaite.
Pour en profiter, voilà. Absolument. Merci beaucoup, Cartoine, d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Cette semaine, merci. Cette semaine, Gaël évoque pour nous la superbe exposition Picasso au musée des Beaux-Arts de Lyon. Effectivement, une très belle exposition que nous avons eu l'occasion de voir toutes les deux. Qu'en as-tu pensé ?
Exactement. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en ce moment, il fait très froid. Donc je vous propose de partir à la plage. Et sachez que les plaisirs balnéaires sont nés d'une mode venue d'Angleterre au cours du 19e siècle. Mais plus proche que l'Angleterre, allez voir au musée des Beaux-Arts de Lyon Picasso, baigneuse, baigneur. Dès l'entrée, Picasso sur la plage de l'hôtel Gonnet à Cannes, immortalisé en 1965 par le photographe Lucien Clergue, vous réchauffera. L'exposition qui devait se terminer le 13 juillet dernier a bénéficié de prêts exceptionnellement accordés pour être prolongée jusqu'au 3 janvier 2021, bon, excepté trois œuvres. L'origine de l'exposition est le fameux legs que l'actrice collectionneuse, la lyonnaise Jacqueline de Lubac, la fameuse, a fait au musée des Beaux-Arts de Lyon. L'exposition est organisée à trois têtes, le musée national Picasso de Paris, la Peggy Guggenheim Collection de Venise et le musée des Beaux-Arts de Lyon. Chacune de ces trois institutions ayant une œuvre très similaire, incroyable, hein, de 1937 sur la thématique des baigneuses. En plus d'œuvres de Picasso, l'iconographie des baigneuses est abordée avec des tableaux d'Édouard Manet, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Paul Gauguin et la superbe femme aux trois bras, qui est une étude pour le bain turc de Jean-Auguste Dominique Ingres. Au-delà de ce contrepoint aux maîtres anciens, des clins d'œil artistiques à la création contemporaine ponctuent aussi le parcours. Organisée autour de 9 sections, l'exposition montre combien l'iconographie de la baigneuse est traditionnelle en peinture, comme en sculpture, et combien ces représentations ont pu évoluer. L'étude de 1908, Baigneuse dans la forêt de Picasso, appuie le cubisme naissant des Dames d'Avignon et confirme le goût prononcé de l'artiste pour la géométrisation des formes féminines et du paysage. Picasso parcourt tous les styles. Il explore, mais ne s'attarde pas. Depuis les baigneuses néoclassiques, plus massives, mais toutefois tout en mouvement, en passant par les baigneuses plus filiformes de Biarritz, où trois figures, l'une allongée, l'autre assise, l'autre debout, créent un rythme mélodique, tout en courbe élégante, jusqu'à, enfin, celle jouant au ballon au milieu de cabines de plage. Les visages de ces dernières baigneuses sont fins, comme une petite tête d'épingle, comme si Picasso avait vu la scène de très loin, comme s'il épiait une amante de loin. Ne rentrons pas ici dans les détails, mais cette vision lointaine est sans doute celle portée par l'amour consenti à une jeune fille au carré blond très court. Je laisse la question en suspens. Ces fameuses baigneuses de Dinard sont vues en 1927 par un jeune homme de 18 ans, un certain Francis Bacon, également présent dans l'exposition avec des œuvres en vis-à-vis, confirmant l'influence de Picasso dans son parcours. Le contrepoint contemporain aux baigneuses de Dinard s'incarne dans le tableau The Game, le jeu, de la plasticienne belge Farah Attassi, qui reprend, en plus des baigneuses, les motifs des cabines de plage et le jeu du ballon. Ces motifs et l'extrême schématisation des baigneuses, un carré percé de trois trous figurant par exemple un visage, s'incarnent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une installation, mais que l'avant-gardiste Picasso nomme, lui, dès 1930, de tableau-relief. Fait au revers de la toile, la partie saillante du châssis se fait ainsi encadrement. Il se compose de sable, de ficelles, de carton collé, cousu sur toile. Ces monochromes de sable contiennent tout ce que l'estran, alors ça c'est un mot assez incroyable, parce que c'est un moment clé entre les marées les plus hautes et les plus basses, donc ce fameux estran, tout ce qu'il charrie sur la plage, c'est pourquoi on retrouve aussi des petits bouts de ficelle, etc. Ces tableaux-reliefs jouent aussi bien évidemment de la 3D, troisième dimension et idée de sculpture retrouvée au cours des années 1930-33, avec le tableau figure au bord de la mer, un grand format, qui impose un stop tant les distorsions corporelles sont puissantes. Les corps sont fragmentés à l'extrême, en morceaux. On les croit démantibulés. Pourtant, le mouvement est torride et le baiser aux langues fourchues palpable. L'amas de forme rend les corps abstraits, mais l'accouplement avec entrechoquement des corps est, quant à lui, bien figuratif. Ici, le couple est crispé dans une étreinte tout à la fois instable et durable. Et notez que l'anagramme d'étreinte est éternité. Le tableau figure au bord de la mer semble en fait plus relevé d'une préoccupation sculpturale, tant les corps sont représentés en un assemblage de multiples modules. On demeure interloqué face à cette fiévreuse énigme anatomique. Ce tableau vous réchauffera aussi de la météo maussade, car pour Picasso, il n'y a pas de différence entre l'art et l'érotisme. Attardez-vous devant le film documentaire « Le mystère Picasso » d'Henri-Georges Clouzot, qui a filmé l'artiste en plein processus de création. On voit le dessin en train de se faire, daté de 1955. Il reste cependant toujours aussi hypnotique. Dans la dernière salle, plusieurs sculptures de baigneuses et baigneurs en bronze se dressent majestueusement. Grande silhouette géométrique dont le côté saillant est formellement contrecarré dans le même espace par les jubilatoires formes femmes, sculpture tout en rondeur de Nikit Saint-Phal, dont une mini nana acrobate de 1968 qui rappelle les jeux de plage des baigneuses de Dinard de Picasso. L'exposition Picasso baigneuse-baigneur est à voir jusqu'au 3 janvier 2021. Plus d'informations sur mba-lyon.fr.
Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, les Gédéons, cette semaine, on commence par toi, Guillaume. Alors, les Gédéons, le principe, bien sûr, c'est un incontournable du moment, un coup de cœur, bref, quelque chose qu'on a envie de faire partager à nos auditeurs.
Alors,
Guillaume.
Incontournable, je ne sais pas, mais en tout cas, un gros coup de cœur, en fait, pour un artiste qui a été lyonnais, qui a fait l'école Émile Cole, et qui est un chanteur, et qui maintenant est Ardéchois, et qui s'appelle... Oui, ça arrive, on peut immigrer de Lyon en Ardèche.
Oui,
ça et qui s'appelle
arrive.
Oscar Les Vacances. Uh-huh. Alors, pourquoi je parle de lui? Parce que, très récemment, il a remporté le prix du jury du tremplin à tout bout de champ, au Théâtre Comédie Odéon. Et c'est vraiment un artiste, je ne sais pas comment le décrire, un petit peu lunaire. De loin, il ressemble un petit peu au Petit Prince, mais qui aurait un petit peu vieilli, parce qu'il doit avoir 20-25 ans. Et puis, côté musique, c'est un peu le Rémi Brica aussi de la chanson un peu folk en français. Il joue de plein d'instruments. C'est très drôle, ça pourrait être un mix entre Mathieu Bogertz et Boris Vian. J'exagère un peu, mais c'est vraiment un très bel artiste. Il a sorti un album totalement rigoureusement autoproduit, donc on peut trouver sur sa page Facebook, avec des titres comme « Célibataire » et ensuite « C'est Carnaval ». Et je trouve que ces deux mots associés est assez...
Je suis assez d'accord, drôle. On en écoute un titre.
On va en écouter un titre, effectivement,
on
tout
va
de
faire
suite.
Plaisir.
On va écouter « Un animal, des animaux ».
Un animal, des animaux. Un animal, des animaux, qu'est-ce que j'aime, les animaux. Je ferai tout pour les animaux, je me transformerai en animaux. Viens maman, on va au zoo, viens papa, voir les animaux. Les éléphants et les zigotos, les pélicans et les gigolos. Orang-outan, c'est rigolo, c'est surprenant. C'est rigolo, le coq à bois, cocorico, cocoricois, c'est rococo. Un cheval et des chevaux, petit poney au triple galop. Les hérissons du Colorado, les éléphants du Galapagos. Petit garçon, petit oiseau, petit poisson, poisson dans l'eau. Tête la vache, tête le veau, parigo, tête de veau. Les écrevisses, tête de veau, chouette et frais, tête de veau. Toi sur la banquette, tête de veau, j'aime la blanquette de veau. Côte d'Azur, côte d'agneau, qu'est-ce que j'aime les côtes d'agneau. À la crème, à l'apéro, au nom du père et de l'agneau. Un serval, des cerveaux, un givet, des gigots. Je me suce les doigts, je suce les os. J'en perds la voix et j'en perds les os. Un animal, des animaux, j'aime manger les animaux. J'aime croquer les animaux, depuis que je suis un animal. Thank you. Viens maman, on va au zoo. Viens papa, manger des animaux. Manger du lion, de l'éléphanto, du cheval, au triple galop. Crocodile, dans un gâteau. Sur le Nil, dans un gâteau. Triceraptor, dans un gâteau. Alligator, alligato. Le dauphin bleu, des Galapagos. La baleine bleue, de Bornéo. Le requin blanc, de Marocco. Le King Kong, de Chicago. Du marron froid, du marron chaud. Du chien froid, et du chien chaud. Je mange les chats, et je mange les veaux. Je mange les thons, et je mange tago. Dans Buffalo Grill, y'a Buffalo. Dans mon four à grill, y'a Buffalo. Dans la tête de mon père, y'a Buffalo. Et dans le ventre de ma mère, y'a Buffalo. Un humain, des humains, qu'est-ce que j'aime, les humains, en ami ou en gratin. Le meilleur, c'est le gratin. Le président, les Américains. Le président, des Coréens. Le dirigeant, les présidents. Et l'intermittent, de TF1. Des bonnes sœurs, et du bon vin. Des pasteurs, et du bon pain. Des supérieurs, c'est vraiment bien. Et des inférieurs, si j'ai vraiment faim. Des jolis petits polytechniciens, des grands méchants pyrotechniciens. Je voudrais manger tous les musiciens, tous les chanteurs, tous les végétariens, tous les gens heureux, et tous les parisiens, tous les amoureux, et tous les lycéens, tous les cancéreux, et tous les médecins, tous les miséreux, et tous les magiciens. Je veux des humains dans mon gros intestin pour avoir trois couilles, 14 putains pour avoir la nouille dure tous les matins. Je veux de la meuf et de l'homo sapiens.
On se retrouve pour le deuxième Gédéon de cette semaine. Moi, j'ai envie de vous faire découvrir un concept qui s'appelle Dépli. Et figurez-vous que d'habitude, je cause toute seule dans mon micro et je vous dis que tout le concept est formidable, etc. Et là, je vais faire beaucoup mieux puisque j'ai un invité, David Volpi, qui est le concepteur de Dépli et qui va nous parler de son concept. Ici, sous les yeux, eh bien, quelques histoires qui sont dédiées aux enfants. Parce que moi, ce qui m'a plu dans votre concept, David Volpi, c'est cette idée de recevoir une petite lettre personnalisée pour chaque enfant. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, déjà, merci pour l'invitation, Gaëlle. C'est chouette, je suis content d'être un coup de cœur et d'être un incontournable, c'est génial. Alors, Dépli, ce sont des petites histoires à déplier au format carte postale. Et en fait, chaque petite carte contient une histoire à lire en 10-15 minutes. C'est pour les enfants à partir de 7 ans. Donc voilà, il y a de la couleur, c'est illustré. Ce sont des histoires qui tirent les enfants vers le haut. Le vocabulaire est enrichi, adapté mais enrichi. Et à la fin de chaque histoire, il y a un petit QR code qui permet de renvoyer sur le site et d'accéder à des jeux, des quiz, des coloriages, etc. Et toujours en lien avec l'histoire. Donc il y a une dimension pédagogique aussi.
Donc les parents abonnent les enfants et ils vont recevoir combien de lettres du coup ?
Alors voilà, c'est ça. Il y a plusieurs formules d'abonnement. Donc l'abonnement complet, donc c'est une histoire toutes les semaines. Donc tous les samedis, l'enfant il reçoit dans la boîte
pendant un an, un peu comme un hebdomadaire.
Pendant 6 mois, enfin on choisit la durée en fait, c'est assez libre, sans engagement. Et donc toutes les semaines, l'enfant reçoit sa petite histoire à son nom dans sa boîte aux lettres. Et voilà, quand on est enfant, recevoir une histoire, c'est
c'est génial. Puis recevoir
magique,
du courrier,
oui,
une lettre
ça,
à son nom,
courrier.
C'est exceptionnel. C'est
donc du coup, on crée une attente. Donc en créant une attente, on encourage aussi à ouvrir ce courrier-là et à lire l'histoire. Donc on encourage la lecture finalement. Donc voilà, donc chaque semaine, cette petite histoire dans sa boîte aux lettres. Et j'ai aussi une formule où on reçoit ce courrier deux fois par mois. C'est soit deux fois par mois, soit toutes les semaines.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous m'avez dit, ce concept est tout neuf. Vous avez eu cette idée au moment du confinement, au moment finalement où les librairies étaient fermées, où les bureaux de tabac étaient fermés. Et finalement, alors il ne restait plus pour les enfants finalement que de recevoir leur abonnement, s'ils en avaient un finalement, pour pouvoir continuer à avoir des histoires neuves, j'allais dire, chaque semaine. Donc c'est comme ça en fait que tout est né.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'est à peu près né comme ça. Moi, pour tout vous dire, j'étais au Canada pendant le confinement. Mais bref, ça ne change rien à l'idée finalement. Et je suis créateur d'un journal papier pour enfants qui s'appelle Tu savais pas. Et en fait, voilà, j'ai à cœur de trouver des supports originaux pour les enfants. Et l'idée m'est venue comme ça en fait. J'ai réfléchi à un autre support de lecture pour les enfants. qui soit vraiment adapté aux petites histoires. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, avec le confinement. Enfin, tout mélangé comme ça, l'idée a suivi son cours dans ma tête. Et j'en suis arrivé à ces petites histoires en format 4 postales.
Qui se déplie, effectivement, d'où le nom Dépli, hein, ici, qui est absolument génial. Moi, ce que je trouve absolument formidable, c'est que non seulement les histoires sont croustillantes, amusantes et effectivement très bien écrites, mais également d'associer ça avec du graphisme, c'est-à-dire des illustrateurs qui interviennent. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que vous faites travailler finalement à la fois un auteur, un illustrateur, tout ça dans quelque chose en fait qui est très léger, qui peut se conserver. Enfin, c'est vraiment une très, très belle idée en tout cas.
Alors, c'est vrai que ça, merci beaucoup. C'est vrai que ça se manipule très facilement. Le côté ludique, bah voilà, le fait qu'on puisse déplier et replier. Et ensuite, le côté technologique avec le QR code à scanner.
Bien sûr.
Et j'insiste aussi sur la qualité du papier, qui est du papier 100% recyclé. Ça me tenait à cœur également. Donc, parce que je suis assez impliqué aussi côté environnement. Et voilà, donc c'est vraiment ces petites histoires originales pour enfants.
Très bien. Alors, on trouve toutes ces informations et la possibilité, bien sûr, de s'abonner, d'abonner son enfant sur un site internet que vous avez créé.
Dépli.fr.
Dépli.fr, tout simplement.
Oui.
Merci beaucoup, merci David Volpi, d'être venu jusqu'ici à la Halle de Bourg pour nous parler, dans ce festival Peinture Fraîche, pour nous parler de votre concept. Et longue vie à Dépli, alors.
Ben, j'espère, merci beaucoup.
C'est grand gentil. Succès à vous.
Merci.
On continue les Gédéon cette semaine avec Gaëlle qui termine avec son Gédéon de la semaine.
Alors, mon Gédéon de la semaine est un magistral roman graphique, Kent State, de Derf. Bagderf, tout juste sorti aux éditions Ça et Là, spécialisé dans l'édition en langue française de BD d'auteurs étrangers. Citons à ce titre le traducteur en la personne de Philippe Touboul, parce que je trouve qu'on ne cite pas assez les traducteurs d'une manière générale.
Mais tu as raison.
Kent State dresse le contexte très documenté des mouvements pacifistes des années 60 aux États-Unis et de la fusillade de Kent State. Sous les ordres de Nixon, il y a 50 ans, le 4 mai 1970 exactement, la garde nationale tuait 4 étudiants lors d'une manifestation pacifique contre la guerre du Vietnam. Le titre original de la BD est Kent State, 4 Dead in Ohio. Titre qui éveillera peut-être les oreilles averties de Guillaume, notre chroniqueur musique. Car un mois après la fusillade de Kent State, Ohio de... Neil Young sortait scandant « For Dead in Ohio ». Merci Guillaume. Pour dénoncer la fusillade de Kent State, célèbre protest song. Neil Young a d'ailleurs été à l'époque censuré hein, sur certaines radios pour avoir cité le nom du président Nixon dans son morceau. Le magazine Rolling Stone a classé Ohio au 395e rang sur 500 hein, des plus grandes chansons. Derf Bagderf, ex-dessinateur de presse qui avait 10 ans lors de la fusillade de Kent State, a sorti son roman graphique après, tenez-vous bien, 4 ans de recherche iconographique, d'enquête et aussi l'interview des survivants. Mmh. L'art est un outil de protestation et le projet d'envergure de Derf Bagderf résonne avec l'actualité récente.
Merci beaucoup Gaëlle, on termine en pente. Allez, on se retrouve la semaine prochaine quand même.